Les fiancés, chapitre 32. Chaque jour augmentant la difficulté de subvenir aux besoins que la malheureuse situation des choses faisait naître, il avait été décidé, le 4 mai, dans le conseil des décurions, que l'on s'adresserait au gouverneur pour réclamer son assistance. Et le 22, partirent pour le camp deux membres de ce conseil chargés d'exposer à ce haut dignitaire l'état de souffrance et de pénurie où se trouvait la ville, de lui présenter que les dépenses étaient énormes, les caisses vides, les revenus engagés à l'avance, le paiement des impôts arrêté par suite de la misère générale, fruit de tant de causes, et notamment des ravages exercés par les troupes. De lui rappeler que, par des lois et coutumes constamment observées et par un décret spécial de Charles V, les dépenses relatives à la peste étaient à la charge du fisc, et que, dans celle de 1576, le gouverneur, marquis d'Ayamonte, avait non seulement suspendu le recouvrement des impôts établis au profit du trésor royal, mais qu'il avait aidé la ville d'une somme de 40 000 écus prise sur les fonds du trésor même, de demander enfin quatre choses. Que le recouvrement des impôts fût, comme alors, suspendu. Que le trésor royal donnât de l'argent. Que le gouverneur informât le roi de la misère de la ville et de la province. Qu'il dispensât de nouveaux logements militaires le pays, déjà ruiné par ceux dont il avait supporté la charge jusqu'à ce jour. Le gouverneur, dans la lettre qu'il écrivit en réponse à messieurs du conseil, leur témoigna combien il s'associait à leur peine, après quoi venaient de nouvelles exhortations. Il regrettait de ne pouvoir se trouver dans la ville pour donner tous ses soins à la soulager, mais il espérait que le zèle de ces messieurs saurait suffire à tout. C'était un moment où l'on devait ne pas regarder à la dépense et chercher tous les moyens d'y faire face. Quant aux demandes qui lui étaient adressées, « Proveere, disait-il, en el mejor modo que el tiempo y necesidades presentes permitieren. » Note du traducteur. « J'aviserai aux moyens d'y satisfaire autant que les circonstances et les besoins du moment pourront le permettre. » Fin de la note. Et au bas, un hiéroglyphe mis pour signifier Ambroise Spinola est tout aussi clair que ses promesses. Le grand chancelier Ferrer lui écrivit que cette réponse avait été lue par les décurions « con gran desconsuelo », avec grand chagrin. Il y eut d'autres allées et venues, d'autres demandes et d'autres réponses, mais je ne vois pas qu'on en soit venu à un résultat plus positif. Quelque temps après, au moment où la peste sévissait le plus, le gouverneur transmit, par lettre patente, son autorité à Ferrer même, ayant, quant à lui, comme il l'écrivit, à s'occuper de la guerre. Laquelle guerre, soit dit ici incidemment, après avoir emporté, sans parler des soldats, au moins 1 million de personnes, par la contagion, dans la Lombardie, le pays vénitien, le Piémont, la Toscane et une partie de la Romagne, après avoir désolé, comme on l'a vu plus haut, les lieux par lesquels elle passa, ce qui donne l'idée de ce qu'elle fit souffrir à ceux qui en furent le théâtre, après la prise et le sac atroce de Mantoue, laquelle guerre, disons-nous, finit par la reconnaissance consentie par tous du nouveau duc de cet état, de ce duc pour l'exclusion duquel cette même guerre avait été entreprise. Il faut pourtant ajouter qu'il fut obligé de céder au duc de Savoie une partie du Montferrat, dont le revenu était de 15 000 écus, et à Ferrant, duc de Guastalla, d'autres terres d'un revenu de 6 000. Il faut dire encore qu'il y eut un autre traité séparé et très secret, par lequel le même duc de Savoie céda Pignerol à la France, traité qui reçut quelque temps après son exécution, sous d'autres prétextes et à force de finesses et de tromperies. Les décurions, en même temps qu'ils avaient pris la résolution dont nous venons de parler, en avait arrêté une autre, celle de demander au cardinal archevêque qu'il fût fait une procession solennelle en portant dans la ville le corps de saint Charles. Le bon prélat refusa pour plusieurs raisons. Il voyait avec peine cette confiance dans un moyen qui ne présentait pas une certitude de succès, et il craignait que, si l'événement n'y répondait pas, comme ce n'était à ses yeux que trop possible, la confiance se changeât en scandale. Il craignait encore que, s'il y avait effectivement des untori, la procession ne leur donnât trop de facilité pour commettre leurs crimes. Note de l'auteur. Ce mémoire est pris évidemment de l'écrit inédit d'un auteur qui vivait au temps de la peste. Si ce n'est même la simple publication d'un semblable écrit plutôt qu'une compilation nouvelle. Fin de la note. Note du traducteur. Untori, gens qui oignent. Ce nom fut, comme on voit, créé du verbe ungere pour désigner ces prétendus malfaiteurs qu'on soupçonnait de frotter, d'oindre, de drogues vénéneuses, les murs, les portes et autres objets pour inoculer et propager la peste. L'impossibilité de trouver dans la langue française un mot qui rende, sans en dénaturer le sens, ce substantif qui joue un si grand rôle dans le trait d'histoire où il prit naissance, nous a déterminés à ne pas essayer de le traduire. Ce n'est même pas, sans quelque hésitation, que nous n'en avons pas fait autant pour le mot « unzioni », traduit, dans notre texte, par celui d'onction, dont l'acception, dans notre langue, ne serait pas rigoureusement celle que, d'après l'italien, nous avons dû lui prêter. Fin de la note. Il craignait encore que, s'il y avait effectivement des « untori », la procession ne leur donnât trop de facilité pour commettre leurs crimes. S'il n'y en avait point, une réunion aussi nombreuse ne pouvait que répandre toujours plus la contagion, danger bien plus réel. La crainte des onctions reparaît dans ce raisonnement, parce que cette crainte, d'abord assoupie parmi la population, s'était réveillée et régnait maintenant d'une manière plus générale que jamais et plus que jamais accompagnée de fureur. On avait vu de nouveau, ou cette fois on avait cru voir, de la drogue mise sur des murs, sur les portes d'édifices publics et des maisons particulières, sur les marteaux de ces portes. Le bruit de semblables découvertes n'avait pas plutôt pris naissance qu'il courait de bouche en bouche, et comme il arrive toujours lorsque l'âme est fortement préoccupée de certaines idées, ouïr dire devenait pour chacun la même chose que voir. Les esprits, toujours plus alarmés par la présence du mal, toujours plus irrités par la persistance du danger, étaient par là de plus en plus disposés à embrasser cette croyance. Car le souhait de la colère est d'avoir à punir, et, comme l'a observé fort justement un esprit distingué à l'occasion du fait même qui nous occupe, elle aime mieux attribuer les maux à un acte de perversité humaine dont elle puisse tirer vengeance que de leur reconnaître une cause avec laquelle il n'y aurait autre chose à faire que de se résigner. Les maux de poison très subtils, très prompts, très pénétrants étaient plus que suffisants pour expliquer la violence et tous les accidents les plus extraordinaires de la maladie. On disait ce poison composé de crapauds, de serpents, de pus et de baves de pestiférés, de pis encore, de tout ce que des imaginations sauvages et déréglées peuvent inventer d'horrible et de dégoûtant. À cela vinrent se joindre les sortilèges par lesquels toute chose devenait possible, toute objection perdait sa force, toute difficulté trouvait sa solution. Si la première onction n'avait pas été immédiatement suivie des effets qu'elle devait produire, on en voyait facilement la cause. C'était un essai mal exécuté par des empoisonneurs encore novices. L'art s'était perfectionné maintenant, et les volontés étaient plus acharnées vers le but infernal qu'elles s'étaient proposées. Celui qui aurait encore osé soutenir que le premier barbouillage avait été une plaisanterie, celui qui aurait nié l'existence d'un complot, eût passé pour un homme aveugle, opiniâtre, si même il n'eût encouru le soupçon d'avoir intérêt à détourner l'attention du public de la vérité, d'être un complice de l'attentat, d'être un untore. Le mot devient bientôt usuel, imposant, redoutable. Dans cette conviction où l'on était qu'il y avait des untori, on devait comme infailliblement en découvrir. Tous les yeux étaient ouverts. L'action la plus simple pouvait inspirer suspicion, et la suspicion devenait facilement certitude, la certitude fureur. Ripamonti en rapporte deux exemples, en ayant soin d'avertir qu'il les a choisis, non comme les plus atroces parmi ceux qui se voyaient chaque jour, mais parce qu'il peut malheureusement parler de l'un et de l'autre en témoin oculaire. Dans l'église de Sant'Antonio, un jour où l'on y célébrait je ne sais quelle solennité, un vieillard plus qu'octogénaire, après avoir prié quelque temps à genoux, voulut s'asseoir et auparavant il passa son manteau sur son banc pour en ôter la poussière. « Ce vieux homme oint les bancs !» s'écrièrent tout d'une voix quelques femmes qui le virent faire. À l'instant, le peuple qui se trouvait dans l'église, tombe sur le vieillard. On le prend par les cheveux, par ses cheveux blancs. On l'accable de coups de poing, de coups de pied. Les uns le tirent, les autres le poussent dehors. Et s'ils ne l'achevèrent pas sur la place, ce fut pour le traîner demi-mort à la prison, devant les juges, à la torture. « Je l'ai vu, pendant qu'on le traînait ainsi, » dit Ripamonti, « et je n'en ai plus rien su. Mais je crois bien qu'il n'aura pu vivre que peu de moments encore. » L'autre événement, et celui-ci se passa le lendemain, fut également étrange, mais moins affreux dans son résultat. Trois jeunes Français, un homme de lettres, un peintre et un mécanicien, venus en Italie pour visiter cette contrée, en étudier les antiquités et chercher l'occasion de gagner quelque argent par leur industrie, s'étaient approchés de je ne sais quelle partie extérieure du Duomo qu'ils considéraient attentivement. Un homme qui passait les voit et s'arrête. Il les montre à un autre, puis à d'autres qui arrivent. Un groupe se forme, on regarde, on observe ces gens que leurs costumes, leurs chevelures, leurs havresacs faisaient reconnaître pour étrangers, et, ce qui était plus fâcheux, pour français. Ceux-ci, comme pour s'assurer que la pierre qu'ils avaient sous les yeux était bien du marbre, y portèrent la main. Il n'en fallut pas davantage. Ils furent enveloppés, saisis, maltraités, poussés à coups redoublés vers les prisons. Heureusement, le palais de justice n'est pas loin du Duomo, et par un bonheur plus grand encore, ils furent reconnus innocents et relâchés. Ce n'était pas seulement dans la ville que se voyaient de semblables violences. La frénésie s'était propagée comme la contagion. Le voyageur que des paysans rencontraient hors de la grande route, celui qui, sans l'avoir quitté, s'amusait à regarder de côté ou d'autre, ou se couchait à terre pour se reposer, l'inconnu à qui l'on trouvait dans la figure ou le costume quelque chose d'étrange et de suspect, tous étaient des untori. La vie du premier venu, le cri d'un enfant, suffisait pour qu'on sonnât le tocsin, qu'on accourut de toutes parts. Les malheureux étaient poursuivis à coups de pierre ou saisis et, par une foule furieuse, conduits en prison. Ainsi le dit encore Ripamonti. Et la prison, jusqu'à une certaine époque, fut un port de salut. Mais les décurions, sans se rebuter du refus du cardinal relativement à la procession, renouvelaient auprès de lui leurs instances que secondait le vœu public, non sans une assez vive rumeur. Le sage prélat résista quelque temps encore. Il tenta la voie de la persuasion. Ce fut là tout ce que put le bon sens d'un homme contre le raisonnement de son siècle et l'insistance des voix qui s'en faisaient les trop nombreux échos. En présence des opinions dont nous venons de voir l'empire, avec l'idée du danger telle qu'elle existait alors, vague, combattue, bien éloignée de l'évidence qu'elle a pour nous maintenant, il n'est pas difficile de concevoir comment ces bonnes raisons, pures, dans son esprit même, être subjuguées par les mauvaises raisons des autres. Y eut-il ensuite quelque faiblesse de volonté dans sa condescendance? Ce sont de ces mystères du cœur humain qu'il ne nous est point donné d'éclairer. Du moins, pouvons-nous dire que s'il est des cas où l'erreur puisse être entièrement attribuée à l'esprit, et la conscience en être absoute, c'est lorsqu'il s'agit du petit nombre d'hommes, et certes celui-ci en fit partie, qui, dans toute leur vie, ont montré ne savoir qu'obéir franchement à leur conscience, sans égard pour aucune sorte d'intérêt personnel. Il finit donc par céder à des instances réitérées, il consentit à la procession, il se rendit même à un désir pressant et général en permettant que la châsse où était renfermé le corps de Saint-Charles restât ensuite exposé pendant 8 jours au regard du peuple sur le maître-autel de la cathédrale. Je ne vois point que, ni de la part du tribunal de santé, ni d'aucune autre part, il ait été apporté quelque opposition à cette cérémonie, qu'elle ait été l'objet d'aucune remontrance. Seulement ce tribunal prit quelques précautions qui, sans parer au danger, en dénotaient la crainte. Il prescrivit des mesures plus précises pour l'entrée en ville des personnes venant du dehors, et, pour en assurer l'exécution, il fit tenir les portes fermées. De même que pour exclure, autant que possible, de la réunion les personnes atteintes de la maladie et celles dont l'état pouvait être suspect, il fit clouer les portes des maisons en état de séquestration. Le nombre de ces maisons, pour tout autant que peut valoir sur un fait de ce genre la simple assertion d'un écrivain et d'un écrivain de ce temps-là, s'élevait à environ 500. 3 jours furent employés aux préparatifs de la procession. Le 11 juin, qui était celui auquel on l'avait fixé, elle sortit au point du jour de la cathédrale. Elle s'ouvrait par une longue file de gens du peuple, de femmes pour la plupart, ayant un ample voile sur la tête, et dont un grand nombre, vêtus de toiles grossières, allaient nu-pieds. Venaient ensuite les arts et métiers, précédés de leurs bannières, les confréries en habits variant de formes et de couleurs, puis les ordres religieux, puis une partie du clergé séculier. Chacun dans ses divers corps, ayant les insignes de son rang et portant à la main un cierge de plus ou moins de volume. Dans le milieu de la procession, là où plus de flambeaux brillaient les uns après des autres, où plus de chants faisaient retentir l'air, s'avançait, sous un riche dé, la châsse portée par 4 chanoines revêtus de leurs plus beaux ornements et qui se relevaient de distance en distance. À travers les glaces qui formaient les côtés du précieux reliquaire, on voyait le corps du saint, couvert de magnifiques habits pontificaux, la mitre en tête et conservant encore, sous des traits flétris et décomposés, quelque chose de sa figure, telle que les peintres l'ont représentée ou que quelques personnes se souvenaient de l'avoir vue lorsqu'il était vivant et recevaient leurs hommages. Derrière la dépouille mortelle du pasteur révéré, dit Ripamonti, à qui nous empruntons en grande partie cette description, et près de lui par sa personne, comme il l'était par les mérites, par le sang et par les dignités, venait l'archevêque Frédéric. À sa suite marchait le reste du clergé, et après le clergé, les magistrats en costume de grande cérémonie. Puis les nobles, les uns en grande parure, comme pour mieux s'associer à la solennité du jour, les autres vêtus de deuil, en signe de pénitence, ou nu-pieds et enveloppés d'un manteau, le capuchon rabattu sur la figure, tous avec un cierge à la main. Derrière tout le monde, enfin, venait encore une file de personnes du peuple, de tout sexe et de tout âge. Toutes les rues que la procession devait parcourir étaient ornées comme au jour de grandes fêtes. Les riches avaient étalé sur les façades de leurs maisons ce qu'ils avaient de plus précieux. Les habitations des pauvres avaient été décorées soit par des voisins plus à leur aise, soit aux frais du public. En certains endroits, des rameaux feuillés tenaient lieu de tentures. En d'autres, ils couvraient les tentures eux-mêmes. De tous côtés étaient suspendus des tableaux, des emblèmes, des inscriptions. Sur l'appui des croisées, on avait placé des vases, des objets d'antiquité, des raretés de diverses sortes. Partout, des flambeaux allumés. À plusieurs de ces croisées se montraient des malades séquestrés qui regardaient la procession et l'accompagnaient de leurs prières. Dans les autres rues, il n'y avait que solitude et silence. Seulement quelques personnes, de leurs fenêtres, prêtaient l'oreille et suivaient ainsi dans sa marche la pieuse rumeur. D'autres, parmi lesquelles on vit jusqu'à des religieuses, étaient montées sur les toits pour tâcher d'apercevoir de loin cette chasse, ce cortège, quelque chose de ce qui se faisait en ce grand jour. La procession passa par tous les quartiers de la ville. À chacune des petites places qui se trouvent au débouché des rues principales vers les faubourgs, et qui alors conservaient toutes leur ancien nom de Carrobi, resté depuis à une seule, on faisait une station en posant la chasse près de la croix érigée par Saint Charles pendant la peste précédente sur chacune de ces places et qui subsiste encore sur quelques-unes. Par la longueur de la marche et par ces stations multipliées, midi était passé depuis longtemps lorsqu'on fut de retour à la cathédrale. Le lendemain, tandis que les esprits se livraient à la présomptueuse confiance, un grand nombre même à la conviction, poussée jusqu'au fanatisme, que la procession devait avoir coupé court à la peste, le nombre des morts, dans toutes les classes, dans toutes les parties de la ville, s'accrut à un point si extraordinaire, la progression fut si subite, qu'il n'y eut personne aux yeux de qui la cause ne dut évidemment en être rapportée à la procession même. Mais quelle n'est pas la déplorable puissance d'un préjugé dont une population tout entière est imbue? Ce ne fut pas à ce rassemblement si nombreux et si prolongé dans sa durée, ce ne fut pas à la multiplicité des contacts fortuits, qu'en général on attribue à cet effet, mais bien à la facilité que les Untori y avaient trouvée pour exécuter en grand leur horrible dessein. On dit que, mêlés dans la foule, ils avaient infecté de leur drogue autant de personnes qu'ils avaient pu. Mais comme ce moyen ne semblait pas encore suffisant pour avoir produit une mortalité aussi grande et parmi toutes les classes, comme, à ce qu'il paraît, il n'avait pas été possible, même à l'œil du soupçon, à cet œil si attentif et pourtant si aveugle, d'apercevoir des taches, des onctions d'aucune sorte sur les murs ni sur tout autre objet, on recourut, pour l'explication du fait, à cette autre invention déjà ancienne et reçue dans la science d'alors en Europe, à que de semblables poudres répandues tout le long des rues et principalement dans les endroits des stations s'étaient attachées au bas des vêtements et, mieux encore, aux pieds de tant de gens qui, ce jour-là, avaient marché sans nulle chaussure. Ainsi, le même jour, dit un écrivain contemporain, le jour de la procession, vit la piété lutter contre l'impiété, la perfidie contre la sincérité, la perte contre l'avantage. Et c'était au contraire le pauvre esprit humain qui luttait contre les fantômes qu'il s'était lui-même créés. De ce jour, la violence de la contagion alla toujours croissant. Bientôt, il n'y eut presque plus aucune maison qui ne fût atteinte. Bientôt, au dire de Somalia, cité plus haut, le nombre des personnes renfermées au lazaret s'éleva de 2 000 à 12 000. Peu après, selon presque tous les autres écrivains, il arriva jusqu'à 16 000. Je trouve, dans une lettre des conservateurs de la santé au gouverneur, que, le 4 juillet, il mourait par jour plus de 500 personnes. Plus tard, et lorsque le mal fut à son plus haut période, le nombre journalier des décès fut, selon la supputation la plus généralement adoptée, de 1200, de 1500 même. Il dépassa 3500 si nous en croyons Taddino, lequel affirme que, par les recherches faites, on trouva la population de Milan, après la peste, réduite à peu près à 64 000 âmes, et qu'elle était auparavant de plus de 250 000. Selon Ripamonti, elle n'était que de 200 000, et quant aux morts, il résulte, dit-il, des registres civils, que le nombre s'en éleva à 140 000, sans parler de ceux dont on ne put tenir compte. D'autres donnent d'autres chiffres en plus ou en moins, mais encore plus à l'aventure. Que l'on se figure, quels devaient être les soucis des décurions, sur qui pesait le soin de pourvoir aux besoins publics, de parer au mal là où il était possible de le faire, dans un semblable désastre. Chaque jour, il fallait remplir des vides parmi les employés du service sanitaire. Chaque jour, augmenter le nombre de ses agents de diverses sortes, monatti, apparitori, commissaires. Les premiers étaient affectés aux services les plus pénibles et en même temps les plus dangereux de la peste, comme d'enlever les cadavres des maisons, des rues, du lazaret, de les charrier aux fosses et de les enterrer, de porter ou conduire les malades au lazaret et de les y soigner, de brûler, de purifier les objets infectés ou suspects. Quant à leur nom, Ripamonti le fait dériver du grec monos. Gaspare Bugatti, dans une description de la peste antérieure, du latin monere. Mais celui-ci, en même temps, soupçonne, avec plus de raison, que ce peut être un mot allemand, vu que ces hommes étaient pour la plupart recrutés en Suisse et dans le pays des Grisons. Et il serait en effet assez plausible de voir dans ce mot une abréviation de celui de monatlique, mensuel, car, dans l'incertitude où l'on était sur le temps durant lequel on pourrait avoir besoin de cette sorte d'agent, il est probable qu'on ne les engageait que de mois en mois. L'emploi spécial des apparitori était de précéder les chariots chargés de cadavres en sonnant une clochette pour avertir les passants de se ranger. Les commissaires dirigeaient les uns et les autres sous les ordres immédiats du tribunal de santé. Il fallait veiller à ce que le lazaret fût constamment pourvu de médecins, de chirurgiens, de médicaments, de vivres, de tout ce qu'exige le service d'une infirmerie. Il fallait trouver et disposer de nombreux logements pour les nombreux malades qui survenaient tous les jours. Pour cela, on fit construire à la hâte des baraques en bois et en paille dans l'espace intérieur du lazaret. On en forma un nouveau, tout en baraque, avec une simple clôture en planche et propre à contenir 4000 personnes. Puis, comme il ne suffisait pas encore, on ordonna la formation de deux autres, pour lesquels même on mit la main à l'œuvre. Mais le défaut de moyens de tout genre empêcha de les achever. Les moyens, les ouvriers, le courage, tout cela diminuait à mesure qu'on augmentait le besoin. Et non seulement les projets et les ordres donnés restaient sans exécution, non seulement on ne satisfaisait que d'une manière bien imparfaite, même en paroles, à nombre de nécessités qui n'étaient que trop reconnues, mais on en vint à ce degré d'impuissance et de désespoir de ne rien faire du tout pour celle-là même qui était la plus urgente et la plus à déplorer. Ainsi, par exemple, on laissait mourir dans l'abandon une grande quantité de petits-enfants dont les mères avaient succombé à la peste. La santé proposa de créer un asile pour ces infortunées créatures et pour les pauvres femmes en couche. Elle demanda que l'on fît quelque chose pour venir à leur secours. Elle ne put rien obtenir. « Il est juste cependant, dit Taddino, de ne point trop accuser à cet égard les décurions de la cité qui étaient affligés et tourmentés par le militaire, dont les demandes n'avaient ni règle ni discrétion, et moins encore dans la malheureuse province que dans la ville, attendu qu'on ne pouvait obtenir du gouverneur nulle assistance, et pas d'autre parole sinon que l'on était en temps de guerre et qu'il fallait bien traiter les soldats. Tant il importait de prendre Cassale, tant se montre pleine de charme la louange qui suit la victoire, indépendamment du motif, du but pour lequel on combat. Ainsi encore, les cadavres ayant comblé une grande mais unique fosse qui avait été creusée près du lazaret, et conséquemment les nouveaux cadavres dont le nombre grossissait chaque jour, demeurant çà et là privés de sépulture, les magistrats, après avoir en vain cherché des bras pour ce triste et fâcheux travail, avaient fini par dire qu'ils ne savaient plus à quel moyen recourir. Et l'on ne voit pas comment, sans un secours extraordinaire, on aurait pu sortir de ce funeste embarras. Ce secours, le président de la Santé alla, dans une sorte de désespoir et les larmes aux yeux, le demander à ces deux hommes si capables, à ces deux excellents moines qui gouvernaient le lazaret. Et le père Michel s'engagea à lui donner sous 4 jours la ville nette de cadavres, ainsi qu'à faire creuser, dans la huitaine, des fosses suffisantes, non seulement pour le besoin du moment, mais pour celui que les prévisions les plus sinistres pourraient faire supposer dans l'avenir. Accompagné d'un de ses religieux et de quelques employés du tribunal qui furent remis à sa disposition par le président, il alla hors de la ville chercher des hommes de la campagne. Et, moitié par l'autorité du tribunal, moitié par celle de l'habit qu'il portait lui-même et de ses paroles, il parvint à en réunir environ 200, par lesquels il fit creuser 3 fosses de très grande dimension. Il envoya ensuite du lazaret des Monatti pour ramasser les morts, et au jour fixé, sa promesse fut remplie.